VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 7 octobre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Mali, 3 militaires ont été tués la nuit dernière dans une attaque aux environs de Kourou. 9 villageois enlevés mardi dans le secteur de Nioro par des hommes armés sont toujours retenus. Au Kenya, 2 accusés déclarés coupables dans l'attaque meurtrière du Westgate à Nairobi en 2013. Près de 36 millions de cas d'infection et plus d'un million de morts du coronavirus dans le monde depuis fin décembre. Premier débat ce mercredi soir entre le vice-président américain Mike Pence et la colistière de Joe Biden, Kamala Harris. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Mali, 3 militaires ont été tués la nuit dernière dans une attaque aux environs de Koro dans la région de Mopti. Par ailleurs, 22 personnes ont été enlevées mardi par des hommes armés dans la région de Ségou lors de la foire hebdomadaire de Farabougou. 13 ont été libérés, mais 9 sont encore retenus par les ravisseurs. Les précisions avec Kassim Traoré à Bamako.
Pirga est un village situé entre Koro et Bankas dans la région de Mopti. Hier, aux environs de 23h, des individus non identifiés ont attaqué le poste des forces armées maliennes qui était tenu par la garde nationale et l'escadron de Koro. Le bilan est de 3 soldats maliens tués, un dégât matériel avec 2 véhicules de la garde nationale calcinés, un pick-up emporté plus une arme lourde. Par ailleurs, dans la région de Ségou, cercle de Nyono, le village de Farabougou dans l'arrondissement de Sokolo, commune de Dogofri, une vingtaine de personnes ont été enlevées quand ils se rendaient à leur foire hebdomadaire. Tard dans la nuit, les assaillants ont libéré 3 femmes avec 2 nourrissons, puis 4 hommes, dont un vieillard de 76 ans a été aussi libéré. Ce matin, les villageois ont retrouvé 4 enfants au bord de leur canal. Lors de l'enlèvement de 20 personnes, un jeune homme a perdu la vie. Actuellement, le chef de village réclame la libération de 9 personnes, tous des civils. Le plus âgé parmi eux a 51 ans. Cette situation a été portée à la connaissance de l'armée malienne, pour qui il y a des présumés djihadistes dans la zone, mélangés à des groupes d'autodéfense d'Onso. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Invoquant des raisons de prudence, le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal a décliné tout commentaire sur l'éventuelle libération de Sophie Petronin, enlevée fin 2016 au Mali. L'humanitaire est supposé être retenu avec l'ancien ministre malien Soumaïla Cissé par des islamistes d'Al-Qaïda. Plus d'une centaine de djihadistes ont été libérés de prison depuis ce week-end pour obtenir la libération des 2 otages. Le fils de Madame Petronin, Sébastien Chado, arrivé mardi à Bamako, demeure sans nouvelles. Au Burkina Faso, 25 civils, majoritairement des déplacés internes fuyant les violences djihadistes, ont été tués dans la nuit du 4 au 5 octobre dans une attaque dans le centre nord du pays, selon le HCR. Les autorités burkinabées n'ont pas fait d'annonce officielle, mais des sources locales à Kaya ont confirmé cette attaque, évoquant un bilan inférieur. 5 marins enlevés par des pirates sur des navires dans des ports de Guinée équatoriale ont été libérés mardi au Nigeria, a annoncé le gouvernement équato-guinéen. Les pirates avaient attaqué des bateaux marchands le 9 mai dans les ports de Malabo et de Louba. 5 membres d'équipage, un équato-guinéen, 3 russes et un ukrainien avaient été enlevés et 2 marins russes avaient été blessés. Un sommet associant 4 chefs d'État sur la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs a débuté ce mercredi par visioconférence sans la participation du Burundi. Les présidents João Lourenço, Paul Kagame et Yoweri Museveni sont en visioconférence avec leur homologue congolais Félix Tshisekedi, initiateur de la réunion selon un communiqué de la présidence congolaise. Au Kenya, deux des trois accusés ont été déclarés coupables de complot et de soutien au commando qui a attaqué le centre commercial Westgate de Nairobi en septembre 2013, faisant 67 morts. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Le magistrat Francis Andayi a estimé que Mohamed Ahmed Abdi et Hassan Hussein Mustafa ont conspiré et apporté un soutien aux quatre membres du commando qui ont péri dans cette attaque. Le juge a affirmé que les deux étaient en communication constante avec les assaillants. Il a ajouté qu'il n'y a pas de preuves montrant que les accusés ont fourni un soutien matériel aux assaillants, mais estimé que leurs communications avec eux ont soutenu leur entreprise. Le juge n'a cependant pas prononcé immédiatement des peines à leur encontre. Le troisième accusé, Liban Abdoulaye Omar, a été acquitté à l'issue de ce procès qui a débuté en janvier 2014. Le 21 septembre 2013, un commando de quatre hommes a fait irruption dans le Westgate en lançant des grenades et tirant sur les commerçants et les clients de ce centre commercial de Nairobi avant de s'y retrancher puis d'être tué quatre jours plus tard par les forces de sécurité. L'attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab en représailles de l'intervention militaire kényane menée contre eux dans le sud somalien depuis 2011.
La Chambre haute éthiopienne a voté une réduction des fonds fédéraux alloués à la région du Tigré en conflit avec le pouvoir central du Premier ministre Abiy Ahmed. Une décision qualifiée de totalement inacceptable par un haut responsable tigréen. Cette décision intervient en représailles à l'organisation d'élections régionales au Tigré, malgré le report de tous les scrutins ordonnés par Addis Abeba. En Afrique du Sud, des manifestations dans plusieurs villes ont dénoncé la gestion du gouvernement pendant la pandémie de Covid-19. Plus de 2 millions de personnes ayant perdu leur emploi entre avril et juin. Ces rassemblements minimalistes à cause de l'épidémie étaient organisés à l'appel de la COSATU, la principale centrale syndicale qui dénonce également les bas salaires et les scandales de corruption liés au coronavirus.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de Covid-19 a fait près de 36 millions de cas d'infection et plus d'un million de morts dans le monde depuis son apparition fin décembre. Plusieurs pays ont pris des nouvelles mesures pour tenter de contrôler la situation. Le point avec Nanit Talani.
Le patron du HCR, Filippo Grandi, a annoncé ce mercredi être positif au Covid-19, mais que ses symptômes sont légers et il espère être rétabli rapidement. Il est en quarantaine ainsi que 7 personnes qu'il avait approchées lundi à 1,5 m. En Belgique, les cafés et bars devront fermer pour un mois à partir de jeudi dans toute la région de Bruxelles pour contrer la propagation du coronavirus qui s'accélère. Ces nouvelles restrictions sont similaires à celles qui s'appliquent depuis mardi à Paris en France et dans les 3 départements de la Petite Couronne. En Suisse, les cas quotidiens de Covid-19 ont franchi la barre des 1000 pour la première fois depuis le 1er avril. Le gouvernement exhorte la population à respecter les gestes barrières pour éviter la fermeture des établissements. En Iran, la mortalité due au Covid-19 a atteint un nouveau record avec 239 décès supplémentaires en 24 heures. Au Sri Lanka, plus de 1000 travailleurs ont été testés positifs dans une usine qui produisait jusqu'en août des masques chirurgicaux pour les États-Unis. Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas. Ils sont suivis par l'Inde, le Brésil, le Mexique et le Royaume-Uni.
Premier débat ce mercredi soir entre le vice-président américain Mike Pence et la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, à moins d'un mois de la présidentielle du 3 novembre. Le point avec Abdourahman Dia.
C'est Salt Lake City, dans l'Utah, qui va accueillir l'unique débat télévisé entre les deux candidats à la vice-présidence. À cause de la pandémie de COVID-19, des parois en plexiglas ont été installées pour séparer les deux candidats et les bureaux où ils prendront place ont été éloignés pour respecter la distanciation physique. Ex-procureur habitué des réquisitoires acérés, la sénatrice démocrate Kamala Harris, 55 ans, ne devrait pas manquer d'épingler son rival sur la gestion de la pandémie. Mike Pence, 61 ans, est depuis février aux commandes de la cellule de crise de la Maison-Blanche chargée de lutter contre la propagation du virus. Mais cet ex-gouverneur et animateur de radio ultra-conservateur est aussi un orateur discipliné et pourrait, comme lors de son débat vice-présidentiel de 2016, offrir une bonne prestation. La pandémie de COVID-19 devrait donc être l'un des principaux sujets dans ce pays le plus touché au monde. Mais l'économie, la violence, les questions raciales devraient aussi être abordées.
L'ouragan Delta s'est abattu mercredi matin sur la côte est du Mexique avec des vents de 175 km/h, touchant la péninsule du Yucatan près de Puerto Morelos. Selon le Centre national américain des ouragans, il a été rétrogradé en catégorie 2. Il devrait regagner la mer et atteindre jeudi le sud des États-Unis, selon le centre spécialisé. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Au Gabon, la Task Force a conclu que 241 milliards de francs CFA, soit 70% de la dette intérieure sur les 370 milliards déjà audités, seront annulés car ils ne sont pas justifiés. L'abandon des créances est motivé entre autres par la passation des marchés non conformes, les surfacturations, l'inexistence de contreparties réelles, la fraude fiscale, le non-paiement d'impôts et des cotisations sociales. L'audit vise l'assainissement des finances publiques, la transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la fraude. Le syndicat des dockers au Soudan a fermé jusqu'à nouvel ordre le port Soudan, poumon économique du pays, à cause des manifestants qui bloquent depuis 4 jours ces docks, pour protester contre l'accord de paix signé entre rebelles et pouvoir. C'est de ce port sur la mer Rouge que sont exportés les produits agricoles et que sont importés les produits manufacturés. Cette deuxième ville soudanaise compte aussi un terminal pétrolier. Pour terminer, ici aux États-Unis, la production du gaz naturel passera à 39% cette année contre 37% en 2019. La part du charbon passera à 20% contre 24% l'an dernier. La production nucléaire se maintiendra à 20% en 2019-2021, tandis que les énergies renouvelables passeront à 20% contre 17% en 2019. C'est la première fois que le nucléaire et les énergies renouvelables dépasseront le charbon.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. À une victoire du sacre, les Lakers, dans le sillage de LeBron James, ont battu Miami 102 à 96. Dans la finale NBA, Anthony Davis a pesé autant que ses 22 points et 9 rebonds. LeBron James a pour sa part une fois de plus tutoyé le triple-double, 28 points, 12 rebonds et 8 passes décisives. Los Angeles a su contenir la star d'en face, Jimmy Butler, qui a dû se contenter de 22 points tout en frôlant lui aussi le triple-double avec 10 rebonds et 9 passes décisives. Une performance solide mais insuffisante. Miami se retrouve désormais dos au mur, contraint de gagner tous les matchs qui viennent à commencer par le cinquième vendredi, sans quoi James et ses Lakers seront sacrés champions. Toujours en NBA, mais cette fois-ci chez les femmes, les basketteuses de Seattle Storm ont remporté le titre féminin 3-0 dans la série au meilleur des 5 matchs en atomisant dans le match numéro 3. Les Las Vegas Access 92-59. Brianna Stewart, qui a inscrit 26 points et a été désignée meilleure joueuse des finales, a été la principale artisane de cette écrasante victoire. Seattle avait remporté vendredi et dimanche les 2 premiers matchs les plus accrochés. 93-80 et 104-91, le Storm, déjà sacré en 2004, 2010 et 2018, égale désormais au nombre de titres en WNBA les Minnesota Lynx et les Houston Comet avec 4 trophées. Football, vous le savez, la fenêtre FIFA s'est ouverte lundi, mais les choses ne tournent pas rond pour certaines sélections africaines, dont certains joueurs ont déclaré forfait en vue des matchs amicaux à venir. Pour son match amical face au Bénin dimanche à Lisbonne, le Gabon devra faire sans ses stars Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina blessés. Situation similaire pour la République démocratique du Congo qui fera face au Burkina Faso et au Maroc. Sans Gaël Kakuta, Chancel Mbemba, Anthony Mossi, Nick Kabamba, Peter Mutumosi et Joël Béa, convoqués par le sélectionneur Christian Zengi, ils sont forfaits pour diverses raisons. Le Nigeria, qui jouera contre l'Algérie et la Tunisie, devra se passer de ses milieux de terrain, Wilfried Ndidi et Peter Etebo, et la star Victor Osimhen, Paul Onuachu et Kevin Akpoguma ont été appelés en renfort. Les Camerounais Jean-Pierre Nsame, Ignatius Ganago, blessé Jérôme Oguéné, placé en quarantaine avec son club du Red Bull Salzbourg, ne seront pas de la partie face au Japon aux Pays-Bas.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Tchad, la distribution de l'électricité cause des soucis aux habitants de la capitale N'Djamena. L'alimentation électrique se fait par secteur et à tour de rôle, souvent à des heures tardives. Cette situation n'est pas sans conséquences sur les ménages et le fonctionnement des entreprises. Le point avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Le service qu'offre la SNE, la Société Nationale d'Électricité, ne couvre pas le territoire national. En N'Djamena, la distribution de l'électricité n'est pas régulière et dans certains quartiers, c'est tard la nuit que le courant arrive, souvent à minuit pour être coupé au petit matin. Une situation qui pénalise les petites et moyennes entreprises. Gapsing Debalbi, gérant d'une agence de communication.
Sinon, auparavant, on n'avait pas ce genre de problème. Mais ces derniers temps, des fois, nos meilleurs clients sont obligés d'aller ailleurs pour faire des impressions. On ne fait pas assez de réceptes comme avant. On souffre énormément. Vous savez qu'ici, il fait chaud. Des fois, l'ombre, il fait même 30 quelques degrés. Et là, les machines de marque européenne, c'est pas facile à ce qu'ils supportent des chaleurs.
Les conséquences de ces délestages sans préavis se font également ressentir sur les officines pharmaceutiques, affirme à VOA Afrique, Dr Masnar Aksala, président de l'Ordre national des pharmaciens du Tchad.
Les médicaments ont besoin d'une conservation un peu spéciale, donc il faut de l'énergie. Les officines de pharmacie sont dotées de groupes électrogènes pour donc pallier à ce délestage. Et la charge de ce groupe électrogène, ça augmente les dépenses, bien sûr. Parfois, les coupures et les retours brusques causent énormément de dommages sur le matériel de gestion.
Ces pannes ont une raison. Non seulement les matériels sont vétustes, mais près de la moitié de ces groupes sont en panne, soutient le directeur général de la SNE, Mohamed Adoum Ismaël.
L'état délétère dans lequel se trouve aujourd'hui l'entreprise découle principalement de ses finances déficitaires, qui elles-mêmes sont la conséquence du nombre paiement des factures par les clients de la SNU, un tiers des personnes s'alimentent de façon illégale. Aussi difficile que cela puisse paraître, nous demandons à nos chers concitoyens de faire preuve de patience. Leur calvaire sera bientôt un lointain souvenir.
Mais cet avis n'est pas partagé par tout le monde. Dingam Nael Nelly Versinicel, le président du collectif tchadien contre la vie chère.
Pour résoudre le problème d'énergie, il faut seulement arrêter de détourner le carburant. Aujourd'hui, c'est 11 citernes de 36 000 litres qui sortent de Djermaya. On ne dépose jamais le carburant dans la journée. Il dépose jamais vers 1h-2h du matin. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? On citerne de 36 000 têtes ne peut pas ravitailler N'Djamena. 60 milliards de subventions que le gouvernement accorde, ça ne peut pas gérer l'affaire. C'est la mauvaise volonté. Les autorités qui gèrent l'énergie.
Pour l'ingénieur en génie électrique qui requiert l'anonymat, il faut revoir une nouvelle politique énergétique.
Tant que vous ne faites pas de gros investissements, vous n'allez jamais résoudre le problème. Aujourd'hui, N'Djamena doit être dans le besoin d'environ 400 à 500 mégawatts. Ce n'est pas les histoires de 100 mégawatts ou 200 mégawatts qui peuvent régler le problème. Parce que la ville ne fait que s'étendre. Et vous savez, quand vous allez avoir une seule ligne électrique qui passe, combien de personnes veulent se greffer là-dessus? Tout le monde a besoin de l'électricité.
Selon le rapport de la Banque mondiale sur le progrès énergétique publié en mai 2019, le taux d'accès à l'électricité est de 11% en milieu urbain et seulement 2% en milieu rural au Tchad. André Kodumajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Sénégal, le grand Magal de Touba, qui réunit des millions de pèlerins, se tient malgré la présence du coronavirus. Les autorités religieuses ont maintenu l'événement qui célèbre le départ en exil du cheikh Amadou Bamba en insistant sur le respect des mesures barrières. Les organisateurs et la majorité des fidèles s'y conforment au grand bonheur des vendeurs de masques, selon notre correspondant sur place, Seydina Abagay.
Ah, ça va, c'est ciel, non? se laver les mains, porter un masque et célébrer le Magal, c'est le seul mot d'ordre qui vaille. Si on veut que nos prières soient acceptées.
Entrer dans la mosquée en respectant les mesures d'hygiène, porter les masques et mettre le gel hydroalcoolique pour se conformer aux directives du calife.
Les dispositions que nous avons prises ici vont dans le sens des recommandations du calife, c'est-à-dire le respect des mesures barrières. Vous avez vu ici dans cette maison qu'avant d'y entrer, il faut se laver les mains, porter un masque pour se protéger et protéger bien évidemment les autres.
La vente de masques marche super bien. On s'en sort franchement bien car les gens en achètent plusieurs pour se conformer aux recommandations du calife. Depuis que je suis là, j'ai vendu plus de 300 masques, ce qui nous permet d'avoir des gains journaliers supérieurs à 15 000 francs.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le vice-président républicain Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris se rencontrent ce soir dans un débat qui, pour diverses raisons, pourrait être plus intéressant et moins troublant que le débat présidentiel ou vice-présidentiel typique. Les détails avec Steve Reddish, le récit est d'Arzuma Compaoré.
Le débat vice-présidentiel est considéré comme un match préliminaire, un lever de rideau dans le processus électoral. Alan Schroeder est professeur de communication à la Northeastern University.
Je pense que les débats vice-présidentiels sont souvent plus intéressants à regarder. Les enjeux sont moindres. Les participants se sentent un peu plus libres de dire et faire ce qu'ils veulent.
Le débat de mercredi entre le vice-président républicain Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris a plusieurs scénarios qui le rendent plus intéressant et regardable. Mitchell McKinney, professeur de communication à l'Université du Missouri.
La nature historique de la nomination de Kamala Harris est le fait qu'une femme de couleur, première femme de couleur, participant à ce niveau du processus électoral pour un grand parti politique, va débattre.
Géraldine Ferraro a été la première femme à participer à un débat vice-présidentiel face à George Herbert Walker Bush, le colistier de Ronald Reagan en 1984. Mary Kate Carey est senior fellow au Miller Center de l'Université de Virginie.
Je me souviens qu'il y avait une appréhension sur la manière dont le vice-président Bush devait débattre face à la première femme sur un ticket présidentiel. Il pouvait souvent être un homme très compétitif. Il était très bon en débat, maîtrisait son sujet, mais ne voulait pas avoir l'air de l'intimider de quelque manière que ce soit.
En 2008, les électeurs étaient ravis de voir Sarah Palin faire face à Joe Biden.
Les attentes pour le débat vice-présidentiel Biden-Palin étaient grandes. C'est la seule fois dans l'histoire des débats présidentiels qu'il y a eu plus de téléspectateurs que le plus suivi des débats présidentiels. Et cela n'était pas des moindres parce qu'ils incluaient Barack Obama en termes de débat historique.
Maintenant, le test positif au COVID-19 du président Trump augmente les attentes déjà élevées pour le débat Pence-Harris.
Le vice-président Pence était à l'origine à la tête du groupe de travail sur le coronavirus. Trump a semblé en quelque sorte prendre le relais par la suite. Mais certainement, la campagne Harris s'attaquera à Pence sur les préoccupations liées au coronavirus et se penchera sur tout ce qu'il a mal géré ou aurait pu faire. Elle a la réputation d'être une interrogatrice très agressive au sein de la commission judiciaire du Sénat. Elle est connue pour poser des pièges et tenter d'inciter les gens à répondre. Donc, elle sera une débatteuse très redoutable, je pense. Pence, de l'autre côté, est un monsieur assez imperturbable au point de ne pas être parfois très animé du tout. Donc, les chances qu'il tombe dans n'importe quel piège sont assez faibles.
Sa maladie mise à part, le président Trump a 74 ans. Joe Biden a 77 ans. Ce débat vice-présidentiel a des implications futures certaines.
Si Mike Pence fait un autre bon débat en 2020, comme il y a 4 ans, cela contribuera vraiment à renforcer sa position de candidat républicain en 2024 et de même pour Kamala Harris, qui est évidemment assez jeune pour avoir une ambition à long terme ici.
Mais trop se concentrer sur les 4 prochaines années risque de faire perdre de vue leurs principaux objectifs dans ce débat, défendre le candidat à la présidentielle qui est leur candidat.
Je pense que nous verrons de nouveau Kamala Harris défendre le fait que Trump ne devrait pas être reconduit à la présidence. Et puis Pence devra défendre les 4 années écoulées. Ce sera donc, je pense, un débat intéressant à regarder.
Les candidats à la vice-présidence s'affronteront mercredi soir à Salt Lake City, dans l'Utah.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la rentrée des classes dans plusieurs pays africains dans un contexte de pandémie. Alors que le COVID-19 continue de sévir, plusieurs gouvernements ont décidé de rouvrir les écoles en adaptant les enseignements au nouveau contexte. Comment assurer la sécurité des élèves et des enseignants tout en dispensant un enseignement de qualité malgré les restrictions ? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 8 octobre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
De retour à la Maison-Blanche après avoir été traité contre le coronavirus à l'hôpital militaire Walter Reed dans le Maryland, le président Donald Trump exhorte par des tweets ses compatriotes à ne pas avoir peur de cette maladie. Plusieurs de ses proches ayant pris part à une cérémonie à la présidence en septembre ont été testés positifs au virus. Patsy Widakuswara examine la réponse de l'administration Trump à cette flambée de COVID-19. Le récit est de Lionel Gaïma.
Dès que l'hélicoptère présidentiel Marine One l'a ramené à la Maison-Blanche lundi soir, le président Trump a retiré son masque pour exhorter les Américains à ne pas craindre le nouveau coronavirus.
Et maintenant, je me sens mieux, peut-être immunisé, je ne sais pas. Mais ne laissez pas la maladie dominer vos vies. Sortez, soyez prudents.
N'ayant aucune activité officielle au programme mardi, le chef de l'exécutif américain a posté sur Twitter des messages dont certains minimisant la menace du nouveau coronavirus. Il y a réitéré ce qu'il avait dit dans sa vidéo enregistrée après sa sortie de l'hôpital. Jeffrey Bennett enseigne à l'université Vanderbilt.
Je pense qu'il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit en faveur du message sanitaire que son administration tente de promouvoir. C'était comme souvent avec ce président, une démonstration de ce qu'il croit être la force. Mais bien entendu, nous savons qu'il y a eu des difficultés. Des gros plans du président, par exemple, ont montré qu'il respirait plutôt lourdement.
Mardi, la Maison-Blanche a publié une déclaration assurant que les signes vitaux du président se sont stabilisés et qu'il ne présente pas des symptômes de la maladie. Cela ne veut pas autant dire qu'il n'est pas contagieux, font remarquer les experts en santé publique. Graham Snyder est expert en maladies infectieuses à l'Université de Pittsburgh.
Généralement, les personnes souffrant d'une maladie bénigne ne sont plus contagieuses au 10e jour. Donc, avant tout, si quelqu'un est contagieux avec le COVID-19, il doit s'auto-isoler pour protéger les gens autour de lui.
Entre-temps, la Maison-Blanche est devenue un foyer de virus. Remarquablement, plus vite que d'habitude, certains membres du personnel travaillent à distance. En dehors du président et de la première dame, une dizaine de cadres de la Maison-Blanche et membres de l'équipe de campagne de Trump ont été contrôlés positifs, y compris la porte-parole présidentielle Kayleigh McEnany. Toutefois, ce nombre n'inclut pas les cadres moyens ou les agents assurant la protection du chef de l'exécutif américain. Par ailleurs, au moins 11 personnes ayant aidé le camp Trump à préparer le débat présidentiel de la semaine dernière ont été contrôlées positives. 3 sénateurs républicains, 2 leaders religieux et 3 journalistes ont probablement contracté le virus lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche le 26 septembre. La présidence américaine a assuré que le traçage de contact est en cours. Elle fait face à des critiques pour n'avoir pas impliqué les centres de contrôle et de prévention des maladies ou la municipalité de Washington dans ce processus.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 5.